tous. Alors, je voulais profiter de votre présence, de celle de Anne-Sophie Pelletier, qui est à mes côtés, qui est l'une des grévistes des Opalines. Et de celle de Nathalie Arthaud pour discuter à présent du scandale des maisons de retraite. Scandale qui est apparu au grand jour grâce au conflit qui a opposé le personnel des Opalines à la direction de cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors l'abréviation c'est EHPAD, on va beaucoup l'employer, donc je vous le redis. Je vous rappelle, moi, simplement, brièvement, ce conflit, mais je vais donner la parole à Anne-Sophie pour raconter pourquoi il a éclaté, dans quelles circonstances, dans quelles conditions, quelles étaient les revendications des personnels des Opalines, et aussi le long cheminement de cette grève qui a duré près de 4 mois. La durée de ce conflit et la détermination du personnel l'ont rendu exemplaire pour tout le monde, et le fait qu'elle l'ait rendu public a contraint la direction de cette EHPAD à reculer sur un certain nombre de leurs revendications. Mais je ne vous en dis pas plus là-dessus, parce que je vais laisser la parole à Anne-Sophie pour vous raconter tout ça.
Alors, d'abord, évidemment, merci à Claire et à Ludovinière de permettre de parler encore des EHPAD et de me laisser une tribune libre pour effectivement vous raconter ce qu'était la grève des Opalines de Fouchon qui a duré 4 mois. Alors, vous me pardonnerez parce qu'il y a encore beaucoup d'émotions quand j'en parle. C'était un combat difficile, c'était un combat où nous avons vu la solidarité ouvrière prédominer. Je vois une élue qui est là, donc ça me permet aussi de la remercier, puisque nous avons vu des maires qui se sont sollicités et qui se sont joints à nous, des gens comme Claire aussi, qui sont venus, qui nous ont aidés, qui nous ont redonné le moral, et qui nous ont aidés à venir, des gens comme François, je vois là. En fait, il y a eu vraiment une mobilisation exceptionnelle. Alors je vais vous raconter 117 jours de grève, parce que sinon on en aura jusqu'à 122 heures. Ça pourrait être très long. Mais je vais vous raconter la genèse de notre grève. La genèse de notre grève, elle est venue au départ d'une fatigue des soignants, d'un épuisement des soignants, à cause d'un sous-effectif chronique, et on n'avait pas trouvé de médicaments pour soigner ce sous-effectif parce que notre direction n'écoutait pas, qu'on était en train de s'épuiser. Voilà. Il arrivait que nous soyons 6 pour 77 résidents. J'ai vu des collègues faire jusqu'à 15-16 toilettes par matin. Donc ce qui signifie que forcément, on maltraitait nos personnes âgées. J'ose employer le terme maltraiter parce que c'est de la maltraitance. On les pressait. On avait 15 minutes pour les lever, faire leur toilette, les mettre à déjeuner et refaire leur lit. Alors quand on a des personnes âgées qui sont très peu autonomes ou qui ont du mal à se déplacer, à mobiliser, hein, et je ne vous parle même pas des personnes âgées qu'il faut mobiliser avec des appareils médicaux comme des lèvres malades, enfin il y a des gens qui connaissent certainement et qui sont dans le soin, on avait exactement le même temps, 15 minutes. Et quand nous avions à aller coucher le soir, alors coucher une personne âgée, c'est pas simplement l'aborder, lui raconter une histoire, puis fermer la porte. Coucher une personne âgée, c'est l'emmener aux toilettes, lui mettre un change, lui faire une petite toilette, la mettre en pyjama, la mettre dans son lit. Nous avions 3 minutes 41 pour les personnes les plus autonomes. Donc à un moment donné, on s'est dit, on fait un arrêt sur image. Et puis on a tous en nous des rétroviseurs de conscience, j'appellerais ça comme ça. Dans tous nos métiers, nous les ouvriers, on le fait parce qu'on l'aime notre métier. Et puis on a des qualifications pour ce métier-là. Et puis, comme le disait Nathalie, c'est nous qui faisons la richesse de nos patrons. C'est nos petites mains qui font la richesse de nos patrons. Et bien dans nos métiers, on ne s'est plus reconnus. Voilà, on en avait ras-le-bol de maltraiter les personnes âgées, et surtout on en avait ras-le-bol de cette financiarisation de la vieillesse, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les pattes des Opalines, une personne âgée paye 2800 euros par mois pour être maltraitée par des soignants. Aujourd'hui, le mot d'ordre, enfin, avant la grève, et même encore aujourd'hui, hein, je peux en parler, c'est optimisation. On optimise. On optimise des plannings, on optimise du temps de travail, on optimise des soignants. Mais comment est-ce qu'on fait pour optimiser des déplacements de personnes âgées qui ne sont pas capables de se déplacer tout seules? C'est pas possible. Donc c'est ce qui a fait que notre grève a débuté. On ne se reconnaissait plus dans nos métiers. On maltraitait nos anciens. Évidemment, quand on a averti notre direction, et je pense que ça a aussi été un déclencheur, que nous allions nous mettre en grève, elle a posé son stylo, puis elle a rigolé. Elle a rigolé. Elle a dit non, c'est pas possible. C'était possible. Alors c'était simplement pour vous dire aussi qu'au départ de la grève, on a commencé à 5 sur 44 employés. Nous sommes montés à 13, parce que les filles de nuit se sont jointes à nous partout. Ensuite, nous sommes arrivés à 11. Ensuite à 10. On a fini à 7. Et vous savez quoi? Eh bien, on a gagné. Donc aujourd'hui, vous subissez dans vos entreprises des choses depuis des années, mais tous vous êtes capables, comme on a été capable de le faire aux Opalines, vous êtes tous capables de vous dire un jour, stop. Stop, on ne peut être complice de tout ça. Ce capitalisme à outrance, stop. Nous, nos métiers, c'est pas ça. On était 7. Vous vous rendez compte? 7. Eh bien, on a réussi. On a réussi une lutte de classe. Comme quoi, ça existe encore, la lutte de classe, et on peut la gagner. Un portrait de la grève là qui est positif. Mais je ne vais pas vous cacher non plus qu'on a reçu des coups. Ah, je ne vais pas vous dire que c'était rose. Je ne vais pas vous dire que si un jour vous vous mettez en grève, vos patrons, ils n'ont pas des stratégies et qu'ils ne vont pas vous donner des sacrés coups. Mais tout ça, ça s'anticipe. Tout ça, avec de la connaissance, eh ben, on arrive à faire changer les choses. Et puis, l'État n'est pas forcément non plus avec nous, hein, c'est possible, mais ce n'est pas grave. On continue. On continue parce que notre force, c'est que nous sommes des ouvriers. Et si on y arrive, nous, les ouvriers, eh ben, on fera peur à nos patrons. Et cette financiarisation et ce capitalisme-là, un jour, on arrivera à le renverser. Parce qu'aujourd'hui, si on ne sait pas s'occuper de nos anciens, si on ne sait pas s'occuper de nos enfants, et si on ne sait pas reconnaître nos valeurs, et si nos patrons ne sont pas foutus de se rendre compte que sans nous, ils ne seraient rien du tout, eh ben, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je pense que vous avez compris. Je ne vais pas vous faire une géographie de la grève, hein. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, je ne vais pas vous dire que tout est comme ça, finger in the nose, je ne vais pas vous dire tout ça. C'est difficile la grève, hein. C'est difficile de se mettre en grève. Mais vous savez quoi, quand on est dedans, et quand on est déterminé, et qu'on sait qu'on défend quelque chose de juste, qu'on défend notre savoir-faire, notre savoir-être, tout ce que nous sommes foncièrement, et bien la grève, c'est une super école. C'est une super école de la vie. Et puis en plus, quand on la gagne, comme on l'a gagné, alors on n'a pas tout gagné, hein, évidemment, hein. Mais on a gagné ça. On a gagné qu'aujourd'hui, et aussi grâce à lutte ouvrière, eh ben, y a un débat qui a été mis dans le national. On parle des EHPAD. Aujourd'hui, on ne garde plus les EHPAD par des petites meurtrières, on ouvre des portes. Oh, on a un beau constat. Mais si on en reste au constat, on ne va pas aller loin. En même temps, c'est La République en marche. Je suis désolée, je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup de choses derrière, mais au moins, on a un constat. Aujourd'hui, voilà, on a gagné ça. Et vraiment, ce que je veux vous faire passer, c'est que même si l'État nous a fait des pressions, l'ARS et tout ça, nous ont fait des pressions. Les préfets nous ont fait des pressions. Les sous-préfets nous ont mis des pressions. Les conseils départementaux nous ont mis des pressions. Tout le monde nous a mis des pressions. On a vraiment eu l'impression d'être sacrifiés sur l'autel de la financiarisation, finalement, et du capitalisme. Et bien, je vous dis ça avec moi, même avec toutes ces pressions, juste parce qu'on était déterminés et qu'on savait qu'on avait raison, on a réussi. Alors, prenez conscience, mais vraiment prenez conscience que quel que soit le nombre que l'on soit, on peut y arriver. Parce que nous, y sommes arrivés à 7. On a commencé à 7, on a fini à des milliers. Parce qu'il y a énormément de gens qui se sont reconnus dans ce que nous défendions. Alors vous pouvez y arriver comme nous.
Merci déjà.
Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la suite de cette grève, dont Anne-Sophie vient de vous parler, de cette affaire qui est devenue nationale, en fait, beaucoup de langues se sont déliées. Et on a vu un peu partout des gens, aussi bien des familles de patients que des personnels, qui dénonçaient leurs conditions de travail. Et le pire, c'était évidemment cette maltraitance envers les personnes âgées. Alors, les personnels des Opalines, ils ont raconté ça dans un article du Monde, où je vais citer quelques primes. Il y avait ce que tu disais, hein, le matin, on les lève sans leur demander leur avis. On sait déjà qu'on n'aura pas le temps. 15 minutes pour la toilette, l'habillement, le petit déjeuner, les médicaments. Alors il faut choisir. Est-ce qu'on lave les cheveux ou les dents? La douche hebdomadaire, c'est rare qu'on la tienne. Certains résidents sont nourris à la cuillère. Et il y avait une soignante qui racontait, il m'arrive d'en avoir 5 ou 6 en même temps. Et elle tendait les bras en mimant le buste qui pivotait à toute allure. Et j'ai l'impression de faire du gavage. Autre établissement, parce qu'il n'y a pas cause aux palines que du coup les langues se sont déliées. Autre article et une aide-soignante qui dit bah, les dents, on ne les fait pas tous les jours. On les fait peut-être 2 fois, 3 fois maximum par semaine. Et une résidente du même EHPAD racontait, je n'ai pas pris de bain depuis le mois de mai. Ni vraiment de douche. Quelquefois, je prends la douche dans le lit en plastique, mais c'est pas marrant. Aux Opalines encore, je cite une résidente de 91 ans qui s'est confiée elle aussi au journal Le Monde et qui disait « Vous avez vu comme elles sont fatiguées ?» en parlant des soignantes. « C'est à cause de nous. Et j'ai honte. » Elle racontait que parfois, elle voulait qu'on la conduise aux toilettes, mais je vois qu'elles n'en peuvent plus, alors je vais dans ma couche. Excusez-moi. En fait, ça a été comme si toutes les scories, grâce à votre détermination et grâce à ce conflit, remontaient à la surface, au point que les médias finissent par en faire leur gros titre sur le scandale des maisons de retraite, car c'est un véritable scandale. Ces faits sont liés essentiellement à la façon de gérer ces maisons de retraite, qui ne sont pas du tout des maisons sous contrôle médical. Même leur origine est tout à fait étrangère au système hospitalier, système qui est ce qu'il est, mais qui a sa culture et ses traditions, et dans lequel le savoir-faire du personnel vient toujours pallier les négligences graves. Car dans le système hospitalier, comme par exemple dans la vieille SNCF d'ailleurs, c'est un lieu où les protocoles et les façons de faire se transmettent d'une génération à l'autre. Les EHPAD privés comme celle-ci sont nés en dehors de ce système-là et ne bénéficient pas de cette tradition hospitalière. Le personnel n'y est ni protégé, ni même formé, et la preuve en est d'ailleurs qu'il n'y a pratiquement aucun encadrement médical. Et c'est ce qui explique en partie le fait que le personnel de ces institutions, qui devrait pourtant avoir une solide formation en gérontologie, finalement se retrouvent démunis devant des tâches lourdes et de gros problèmes qui nécessiteraient des formations de type médical. Et le personnel se retrouve confronté à des situations où il ne peut pas faire face. À cela s'ajoute finalement toute la politique de ces EHPAD, à savoir tout gérer de façon comptable et à l'économie. Les personnes âgées elles-mêmes étant des marchandises qui doivent être rentables. C'est cet état d'esprit, d'ailleurs, qui est transmis par les directions au service des donneurs d'ordre. Alors, pour reprendre sur les Opalines, par exemple, c'est la propriété d'une société d'investissement qui s'appelle la SGMR, Société de gestion des maisons de retraite, qui investit aussi dans plein d'autres branches, comme des supermarchés. Les actionnaires propriétaires sont deux familles de Beaune, tout près d'ici, les familles Ménochet et Péculier, et ce sont la 365e fortune de France en 2017, et ils possèdent près de 45 EHPAD rien que pour les Opalines. Et leur argent investi dans les maisons de retraite doit rapporter autant que celui qui va dans les boîtes de sardines et dans les petits pois. Ils ne sont en aucun cas spécialistes de ce type d'activité. Et c'est la principale cause, finalement, de la misère de ces établissements où la maltraitance est institutionnelle. C'est même le rapport, il y a eu une mission flash menée par l'Assemblée nationale suite à leur conflit pour faire un état des lieux des EHPAD et qui parle de maltraitance institutionnelle. Alors, ça a été fait par une députée macroniste aguerrie, hein, Monique Iborra, qui, en 15 jours, tambour battant, a construit un dossier qui finalement fait un état des lieux où elle dénonce les mêmes aspects, les mêmes choses que nous aujourd'hui. Sauf que quand elle arrive aux aspects financiers, bah finalement, elle ne dénonce que la complexité administrative de la chose. Et quant aux actions envisagées, eh ben, elles sont repoussées à une enquête plus approfondie, en fin d'année prochaine, qui donnera peut-être lieu à des actions, etc. quoi. Et en fait, c'est un véritable marché financier. Alors, il y a d'autres grosses sociétés d'investissement qui sont spécialisées dans les maisons de retraite. Orpea, alors ils sont tous classés hein, au classement des grandes fortunes. Donc il y a Orpea, dont le dirigeant, monsieur Marian, est classé 197e fortune du pays. Il y a Domus Vie, dont le propriétaire, monsieur Journel, est 154e. GDP Vendôme, avec monsieur Gobertier, 187e. Ou encore Emera, 261e. C'est pas un hasard si ce domaine d'investissement, la vieillesse, est appelé l'or gris par ses investisseurs, ou en anglais pour faire moderne, la silver economy, rapport aux cheveux argentés des personnes âgées. Le leader européen, c'est Korian. C'est un groupe de plusieurs sociétés d'actionnaires qui possède près de 600 établissements répartis entre la France, la Belgique, l'Italie et l'Allemagne. Et Orpea, le deuxième groupe du secteur, est présent dans 19 pays. Ce sont donc de véritables établissements financiers, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Et une partie de leur investissement se fait sur le fait qu'ils occupent la place d'un service public. Il pallie ainsi au fait que les États, finalement, ne veulent plus assurer ce travail-là et récupèrent la part que l'État leur a laissée. C'était auparavant une vieille tradition que l'État se charge des personnes âgées. Et elles sont devenues rentables grâce à leur retraite. Et l'État s'est débarrassé de cette charge et les financiers ont repris ce créneau et ça doit leur rapporter. Et c'est donc tous des organismes financiers indépendants, mais l'État continue à financer à hauteur d'au moins 50%. Donc c'est des véritables sociétés d'économie mixte. Interrogé sur l'ouverture d'un EHPAD de luxe en Chine par son concurrent Orpea, monsieur Yann Coléou, qui lui est le directeur de Korian, expliquait ces choix-là dans une interview en disant qu'il doit renforcer la présence de Korian à l'international, car 50% de leur chiffre d'affaires provient de l'argent public, et que donc, pour lui, vous prenez des risques à être dépendant d'un seul État. Voilà. Donc, ces donneurs d'ordre, en fait, ils sont véritablement menés par leur visée financière, et en aucune façon par la responsabilité que représente cette tâche d'assurer le bien-être des personnes âgées. Et c'est pourtant la responsabilité morale de nos sociétés de le faire, et a fortiori, c'est à nos sociétés riches de prendre en charge les plus âgés, qui sont ceux qui ont contribué à cette richesse. Alors c'est un vieux débat dans les milieux financiers et le gouvernement. Comment continuer à assurer cette tâche ? Est-ce qu'on le fait avec une sécu où les actifs payent pour les retraités ? Ou avec de l'argent mis de côté par les salariés en le capitalisant pour entretenir sa fin de vie. C'est un vieux débat qui, au fond, n'intéresse que les financiers, et ce vieux système de la sécurité sociale qui a fonctionné pendant des années ne leur plaît pas beaucoup. Ils préfèrent les fonds d'investissement énormes qui mettent l'économie tout entière en coupe réglée, et ils préféreraient de loin, eux, la solution du bas de laine sur lequel ils pourraient mettre la main. Mais en accord avec l'État, qui assure une partie de l'activité auprès des personnes âgées et qui leur laisse le soin de construire les autres établissements, ce sont les financiers qui les gèrent ensuite, mais surtout qui encaissent les coupons. Et le vrai scandale, c'est vraiment que ce soit eux qui gèrent, alors qu'ils ne sont absolument pas de la partie. Cet aspect du financement public a été aussi un des scandales que la grève des Opalines a permis de dévoiler. Anne-Sophie en parlait, les résidents ils payent peut-être 3 000 euros de loyer. Il y a seulement 3 euros par jour qui sont consacrés à la nourriture. Et par contre, les salaires des infirmières sont entièrement payés par l'ARS, par de l'argent public, l'Agence régionale de santé, l'ARS. Et ceux des aides-soignantes sont payés à 70% par l'ARS et à 30% par le département. Donc à force de détermination, les grévistes, elles ont fait aussi d'autres découvertes, entre autres que l'ARS en question avait versé aux Opalines de Foucherand chaque année depuis 5 ans une somme qui correspondait à une enveloppe pour embaucher 19 aides-soignantes, alors que seules 14 d'entre elles avaient été réellement embauchées dans la structure. Et le trop perçu, hein, multiplié par 5 ans, etc., ça représente 500 000 euros. Il est apparu également que les Opalines avaient accueilli deux résidents supplémentaires depuis 5 ans sans y être habilités par l'agence de santé et aussi avaient ouvert un accueil de jour sans autorisation non plus, mais qui était payant pour les usagers. L'ARS a été mise au courant par les grévistes et ils ont demandé à la direction des Opalines, ils ont suggéré, si vous voulez, ce trop perçu pourrait peut-être servir à être réparti entre les grévistes, voilà. Mais les patrons Ménechet et Péculier ont dit non, et l'ARS a dit bon. Voilà. Donc sous prétexte, en fait, qu'ils sont une nécessité publique et morale, qu'ils assurent ce travail de prise en charge des personnes âgées, les financiers encaissent de tous les bouts et de l'État. Et c'est une escroquerie financière et c'est une escroquerie morale. Et cette position particulière fait qu'à l'intérieur des EHPAD, il y a un dysfonctionnement fondamental, avec très peu de médecins, très peu de personnel et un personnel qui n'a souvent pas reçu de formation spécifique et qui fait ce qu'il peut. Et souvent, même le personnel qui est issu des hôpitaux, les aides-soignantes, les infirmières, se retrouve avec toute la charge, doit assurer l'encadrement médical avec des situations angoissantes, avec une seule infirmière de jour, voire parfois pas la nuit, qui doit tout gérer dans une ambiance cauchemardesque. Et, car au-delà, finalement, c'est pas seulement un problème de manque de personnel, mais c'est aussi un problème d'encadrement médical et de formation. D'où une maltraitance contrainte et institutionnelle dont souffre aussi le personnel qui ne sait pas comment faire. Et c'est d'autant plus scandaleux qu'il y a un fric fou qui circule et qui ne sert ni aux patients ni au personnel. Le fric, il existe. Ils circulent et il faut leur faire confiance là-dessus. S'ils ont investi, c'est qu'ils en retirent des bénéfices. Alors, bravo au personnel qui relève la tête, qui le dit et qui le dénonce. Et là-dessus, je passe la parole à celles et ceux qui veulent intervenir ou témoigner ou poser des questions. Voilà, à vous.
Je n'ai connu que des difficultés. et ça m'a entraîné des problèmes de santé. Voilà. Et je vous remercie pour ce que vous avez fait, pour ce que vous vous êtes battu, parce que moi je dois dire que à l'époque j'ai été soutenue par un syndicat. Voilà, j'ai été soutenue par un syndicat et lors de mon licenciement, je me suis battue et j'avais écrit à la direction des Opalines pour faire la vérité sur ce qui m'était reproché. Eh bien, je n'ai jamais eu de réponse. Voilà.
Alors, vous nous remerciez, pas vous me remerciez pour ce qu'on a fait, mais vous savez quoi, aujourd'hui c'est moi qui vais vous remercier. Parce que des gens comme vous qui ont travaillé dans les Opalines et qui osent témoigner, c'est très rare. C'est très très rare. Alors c'est moi qui vous remercie. Parce qu'encore aujourd'hui, vous légitimez notre grève avec votre témoignage. Au moins sur les Opalines. Et effectivement, oui, je vous reconnais le manque de personnel. Je reconnais le mépris de la direction. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a vécu en grève. Vous n'avez jamais eu de réponse, je vous rassure, nous non plus. Ou par journaux interposés. Alors, sincèrement, c'est moi qui vous remercie, je vous le redis. Parce que votre témoignage fait du bien, juste me fait du bien, dans le sens où vous avez osé. On a eu très très peu de témoignages de gens qui ont travaillé dans les Opalines. Aujourd'hui, vous le faites. Alors, merci.
De Dijon et je suis allé récemment en Belgique au CHU de Namur. Alors en Belgique la situation est un peu particulière, en fait la moitié des établissements sont privés, l'autre moitié sont publics et le CHU de Namur est privé. Mais c'est du privé à but non lucratif, ce qui change un peu tout en fait. Mais en Belgique effectivement il y a malgré tout des établissements financiers et devinez quoi, c'est uniquement des établissements pour personnes âgées. Et pour compléter ce que tu disais, Claire, la réalité, c'est qu'effectivement, on organise un peu ça. On organise un peu ça au niveau institutionnel et au niveau national. Et pour vous donner simplement un chiffre aujourd'hui, sur le CHU, on vient de restructurer sur Champmaillot, donc l'établissement gériatrique, trois services pour les humaniser. C'était important, parce qu'effectivement, il y avait à Champmaillot des services qui n'étaient quand même pas dans un état très rutilant. On humanise, mais au passage, on perd 30 places. C'est 30 personnes qui vont aller vers le privé. Alors pourquoi aussi c'est si facile, je dirais, de profiter de l'omerta et du silence, c'est qu'on est en face de personnes dont les familles sont très culpabilisées. Donc les familles, elles bougent peu. Elles ont du mal à trouver des places, elles payent et elles font le dos et elles se taisent. Et ça, il faut vraiment qu'on brise ce cercle. Merci. Je sais qu'on vient de te dans ce combat. Je pense que c'est pas un hasard si c'est toi qui es là aujourd'hui. Merci.
Le combat qu'elles ont fait est exemplaire, hein, comme l'a dit tout à l'heure. c'est surtout un problème national. Et ça, c'est clair. Ce qu'on regrette, c'est que leur démarche n'ait pas été suivie derrière. Je crois que c'est un vrai travail à faire au niveau national. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les personnes âgées sont finalement maintenues à domicile de plus en plus tard. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'arrivent dans les EHPAD des personnes en situation plus grave. Donc ça veut dire un travail plus important du personnel soignant, donc une charge de travail plus importante. Et ça n'est pas contrebalancé par une augmentation du temps de la masse salariale. Donc là, il y a juste une erreur, on va dire, comptable, si on peut dire comme ça, de l'ARS. C'est qu'on n'augmente pas les salariés systématiquement par rapport à la charge de travail supplémentaire qui se produit au cours du temps. Grâce aux progrès médicaux, grâce aussi à la survie qui augmente, voilà, c'est une façon d'aller. Après, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur d'autres modes d'accueil des personnes âgées. Et il y a des exemples quand même autour de nous, là, dans le Jura, qui sont assez intéressants. Et c'est ça que je voulais simplement évoquer. Des accueils intergénérationnels, par exemple, comme ça se produit là, c'est en train de se mettre en place à Panier, avec donc un accueil de personnes âgées, mais mêlé aussi à une crèche dans un même bâtiment, avec des mutualisations de salles, et inséré dans le village, c'est-à-dire dans un lotissement. Ce n'est pas un bâtiment qui est en dehors et fermé avec des grilles, comme on peut les voir. C'est inséré dans le village. Ça, c'est pas rien d'insérer. Il était question que la faculté de médecine, enfin que l'hôpital Saint-Jacques à Besançon, soit une maison de retraite. Je trouvais ça formidable qu'on puisse insérer les personnes âgées dans la ville. Ah non, ben le choix était autre, mais pour le moment c'est désaffecté, il ne se passe rien en fait. Bon, autre exemple intéressant, c'est aussi un accueil intergénérationnel, mais là dans des petits bâtiments, ça va se faire sur Jondrey chez nous. Donc à l'étage, en fait c'est des maisons de deux étages, au rez-de-chaussée les personnes âgées sont accueillies, à l'étage des familles. Et avec, bien évidemment, enfin nous, on a un circuit d'ADMR et de voilà, et ça suppose aussi un suivi médical, c'est-à-dire des ressources aussi. Troisième exemple, et il y en aura finalement qui conclut les choses, c'est accueil dans les familles vraiment. C'est-à-dire des personnes, des familles qui ouvrent deux chambres quand ils en ont la possibilité, quand ils en ont l'espace, il faut encore avoir cette possibilité, mais qui finalement jouent le rôle d'une deuxième famille et accueillent donc des personnes chez eux à domicile. Donc ça, c'est vraiment des démarches, on va dire, personnelles. Mais je crois que le problème, il est là, et c'est ce que disait monsieur à l'instant, c'est que les cellules familiales éclatées aujourd'hui font que les personnes âgées sont mises à l'écart, et qu'autrefois, elles étaient accueillies dans les familles. Donc je crois qu'il faut aussi s'interroger sur la famille aujourd'hui, quelle est-elle ?
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir ? Peut-être lui répondre là-dessus ? Ou dire autre chose ? Ou parler de leur situation familiale, justement. Sinon, moi, je peux, mais... Oui, vas-y. Derrière toi.
Alors, je ne sais pas forcément pour que répondre, mais c'est... déjà, je me présente, je suis infirmière en médecine gériatrique. Mais en médecine gériatrique, je fais plus aide-soignante qu'infirmière. Voilà, donc je suis vraiment... Bonjour, monsieur. Je m'excuse, j'ai pris la parole, je vous passe le micro après. Et donc, je disais, c'est... Moi, je comprends tellement ce que tu racontais, Sophie, parce que moi, j'ai l'impression, même que tous ces rapports sur la fameuse maltraitance institutionnelle, moi, j'ai l'impression que je suis contre d'être un bourreau ordinaire. Dans le sens où justement, médicalement, comme tu disais, on est à l'hôpital public, on a les médecins, on a des tas de protocoles, on est quand même bien protégés, on a aussi une formation. Mais de plus en plus, ils te laissent avec tellement peu de moyens que tu le sais en plus, d'autant plus que tu fais de l'horreur. Voilà. Moi, j'ai des patients, j'ai beaucoup de patients démons, très dépendants, Alzheimer. Et ce qu'il faut surtout, là, c'est prendre du temps et être calme. Donc, quand vous avez 15 patients à coucher en une demi-heure, ben, voilà, c'est le temps, le calme, et garder l'autonomie, respecter la dignité des gens, ben, tu t'assois dessus. Voilà. Et c'est juste horrible de vivre ça au jour le jour, voilà, et de le faire vivre. Et ouais, c'est vrai que les familles le voient, Pascal Champmagnot, il y a aussi toute une partie des pattes que tu racontais, là, et d'ailleurs, à terme, c'est 80 lits, hein, qui vont fermer. Voilà. 80 lits en tout. Et bien sûr, elles voient ça, et la majorité des gens, même les patients, te regardent, et c'est eux qui te tapent sur l'épaule en disant « Je suis désolée pour vous, ma pauvre dame. » Voilà, et toi, c'est juste horrible ce que tu fais, c'est affreux. Et je sais, est-ce que, pour la dame qui parlait des familles et tout, c'est que, en même temps, ce qu'on vit dans les hôpitaux, ce qu'on vit dans les maisons de retraite, tout aussi cet accueil, cette prise en charge, ça ressemble aussi au monde dans lequel on vit. Enfin, à un moment donné, c'est pas hermétique. Enfin, c'est. Nous, en médecine bariatrique, on n'a même pas assez de thermomètre, tu vois, pour prendre. On n'a pas assez de gants pour laver les gens. Enfin, c'est, l'année dernière, on a fait une collecte pour avoir des savons pour finir l'année. Je vous le dis, hein, voilà, nous sommes d'hôpital public. Bon. Et c'est ça qu'on vit. Je pourrais vous en raconter tellement, ça ne sert à rien, mais c'est ça. Et en même temps, quand vous dites ça à une direction ou quoi que d'autre, c'est pas qu'ils ne savent pas gérer, mais c'est des vrais choix, c'est des vraies décisions, vous êtes des lignes comptables, et c'est comme ça. Et les familles, quelque part, c'est pareil. Enfin, on est subi à une même. Ce que tu disais très bien tout à l'heure, Anne-Sophie, c'est le capitalisme, et point barre, c'est la financiarisation, et la prise en charge humaine de cette histoire, eh ben, on s'en fout. Et puis c'est tout. Voilà, vas-y.
Alors, pour deux, je pars. Pour deux interventions. Je ne sais plus votre prénom, Nathalie, je crois, c'est ça. Nathalie est une des mères qui est venue nous donner 10% de ses indemnités de mère pour soutenir notre grève tous les mois pour qu'on vienne en fermer. De lutte ouvrière qui est venue, si c'est pas tous les jours, c'est presque, et qui nous a soutenus financièrement aussi. Donc merci Jacques. Je vois au fur et à mesure que Claire aussi. Alors juste pour revenir sur les effectifs des soignants et des ARS. Je vais rentrer dans un truc un peu technique, mais vous allez voir, vous allez quand même comprendre, on va faire un petit schéma très simple. Les EHPAD privés à but lucratif comme le nôtre, en fait, ils sont régis par une convention qui existe entre l'Agence régionale de santé, le conseil départemental et eux-mêmes. D'accord ? On appelle ça des conventions tripartites. L'ARS prend en charge 70% de nos salaires et le conseil départemental prend en charge 30% de nos salaires. Ça, tout ça, c'est de l'argent public. Hein ? Donc nos salaires ne coûtent rien. D'accord ? Jusque-là, c'est pas compliqué. Mais le problème, c'est que ces conventions tripartites ne sont réévaluées que tous les 5 ans. Sauf qu'en 5 ans, on est dans la gériatrie. À moins de s'appeler Benjamin Button, on sait très bien que les pathologies vont régresser. Et en plus que nous, soignants, on participe à cette régression, j'ose le dire, parce qu'on n'a tellement pas le temps de faire avec eux que nous faisons à leur place. Et en plus, on le fait mal. Donc, d'une certaine façon, on participe à cette régression. Mais quand j'entends que dans le service public, on ferme des lits, on va fermer des hôpitaux, on ferme des lits de SMUR, et qu'à côté de ça, j'ai deux actionnaires, excusez-moi, mais qui se font un peu des couilles en or avec de l'argent public, ça me fait mal quelque part. Parce que, effectivement, on va réduire les budgets dans le public et tout ça, mais moi, j'ai pas entendu dire que pour des actionnaires comme les miens, on allait réduire les dotations ARS. Au contraire, hein. Donc ça veut dire que ces deux messieurs vont continuer à avoir une belle maison à Saint-Marc, des beaux locaux, des beaux locaux, qui sont été repris, hein, mes actionnaires. Hein. Ils sont dans l'immobilier, dans le camping, dans la maison pluridisciplinaire de santé, dans plein de choses, puis dans la maison de retraite. Leur cri, c'est ce que disait Claire. Donc aujourd'hui, l'État décide clairement de se dédouaner de la prise en charge de ses anciens. Donc on a un pays qui est en train de mourir, hein, parce que si on ne sait plus prendre en charge nos anciens, à mon sens, on est en train de mourir tout bêtement. Notre culture de garder les anciens à la maison, elle n'est quand même pas si exacerbée que dans d'autres pays, malheureusement, mais c'est la vie qui fait ça aussi. Hein. La génération de mes grands-parents, on gardait nos anciens à la maison jusqu'à ce qu'ils meurent. Aujourd'hui, avec tous vos métiers, vos boulots, vos machins, vos trucs, c'est quand même assez difficile. Et puis on a quand même aussi d'autres pathologies qui arrivent. Ah, avant, on disait « mamie perd la tête ». Aujourd'hui, on a des personnes de plus en plus démentes, parce que là, on parle des EHPAD. Et Julie commençait à en parler. Il y a un scandale phénoménal dans les unités de vie protégée. Toutes ces personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, de maladies de Parkinson, de troubles cognitifs. On vous met maintenant dans des unités de vie protégée des gens qui te relèvent de la psychiatrie. Et j'en reviens à ce que disait Claire. Nous ne sommes pas formés à prendre en charge des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Donc chaque jour, nous mettons nos vies en danger. Parce qu'on prend des coups. Je pense que Julie, tu as pris des coups. Tout le temps, tous les jours. On leur en veut pas, c'est leur pathologie. D'accord ? Mais nos vies sont en danger. Il faut savoir qu'il y a, dans le métier du soin et du service à la personne, d'un point de vue accident de travail, on dépasse le BTP quand même. On dépasse le BTP en accident de travail. Il y a une enquête de l'INSEE qui est sortie, et particulièrement les EHPAD en juillet, le turnover des infirmières dans les EHPAD, c'est 60%. Le turnover des aides-soignantes, aides-médico-psy, c'est 66%, que dans les EHPAD. Donc c'est bien qu'à un moment donné, on est capable de se réveiller parce que on n'en peut plus. Et puis c'est surtout qu'il y a cette forme de complicité, et peut-être qu'à un moment donné, on a tous envie de dire stop. Stop à cette complicité. Et stop, surtout, peut-être que l'argent public qu'on ne donne plus aux hôpitaux, aux EHPAD publics et tout ça, hein, ben, il faudrait peut-être le remettre dans la masse. Et puis peut-être que les employeurs comme les miens, qui sont des actionnaires, hein, et qui sont privés à but lucratif sur de l'argent et qui font des bénéfices sur de l'argent public, vos impôts, hein, juste vos impôts. Et la précarité de l'ouvrier, parce qu'on est payé 1 250 € par mois. Pour travailler 2 dimanches par mois et une prime différentielle incluse de 86 € brut. Bon, heureusement qu'on a la prime. Donc cet argent-là, là, cet argent public, eh ben, il faudrait peut-être, je le répète, et que ce soit mis dans des moyens publics et que le HDPAD, parce que les EHPAD aujourd'hui, hein, établissement d'hébergement pour personnes en situation de âgée et dépendantes, peut-être que ce H, là, il faudra enlever ce hébergement et mettre hospitalier. Parce que, par exemple, c'est compliqué, mais le GMP, le GIR moyen, parce que c'est pareil, je vais devenir un peu technique, mais c'est pour que vous compreniez. Tout à l'heure, je vous ai dit 2 800 €, c'est ce que donnent les personnes âgées, en moyenne. Pour les gens qui connaissent un peu le soin, après, il y a ce qu'on appelle la grille de dépendance. Ça s'appelle la grille GIR. Donc, on évalue la dépendance de la personne âgée. Ça va, je crois, de 6 à 1. Je crois, oui. Quand vous êtes 1, vous êtes le plus dépendant possible. Je ne vous raconte pas, l'état, vous imaginez assez bien. Ça veut dire à peu près 600 € d'allocation personnalisée d'autonomie qui est payée par le conseil départemental. D'accord ? C'est le taux de dépendance. Donc, notre personne âgée, elle paye 2 800 €. Et puis, plus elle est dépendante, plus elle rapporte. Mais plus c'est difficile pour les soignants. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on prend des personnes âgées dans les EHPAD, on les prend de plus en plus lourds, comme ça rapporte de plus en plus, avec des soignants, comme le disait Claire, souvent pas formés, parce que les formations qu'on vous fait, par exemple aux opalines, c'est la formation sur la prise en charge de la douleur. la prise en charge de la douleur, il y a des fiches spéciales. On a eu une super formation. Prise en charge de la douleur, on n'a même pas les fiches. Non. Non, c'est pas dans leur projet. Non. Il n'y a pas de douleur. Quelqu'un qui a des escarres, ça fait pas mal. C'est pas un problème. Fermez les yeux, il n'y a rien à voir, tout va bien aux opalines. Voilà, c'est des choses. Ah mais tout est. En fait, tout est. Nos actionnaires sont. Ah mais nous donne rien. Tout à l'heure, Julie parlait des gants. On a des personnes qui sont en bactéries multirésistantes, donc c'est des gens où il faut mettre des gants quand même, à minimum, hein, pour faire les toilettes. Pendant la grève, on a des collègues qui ont mis des sacs poubelles ou pas pour faire les toilettes. Parce qu'il n'y avait pas de gants. Où est la dignité? Où est la dignité juste pour la personne âgée? Voilà, aujourd'hui, c'est ça. C'est ça le traitement qu'on réserve à nos anciens. Et là, on parle que... J'ai juste survolé les unités protégées, hein. J'ai survolé, hein. En fait, c'est pas inquiétant pour moi. C'est pas inquiétant pour moi, parce que je le sais. Mais c'est inquiétant pour... tous. Pas tous, pas que les personnels. Mais tous les citoyens, là, vous tous. C'est inquiétant pour vous tous, en fait. Parce que si un jour, vous devez aller dans un EHPAD, c'est pas moi, hein, demain, qui vais y aller, hein. Normalement. Et avec toute la reconnaissance et tout l'amour que j'ai pour les personnes plus âgées, c'est peut-être vous qui allez rentrer dans des EHPAD demain. Donc c'est pour vous que je m'inquiète. Et c'est pour les générations à venir. Et c'est pour les générations de soignants à venir. Parce qu'aujourd'hui, si on a de moins en moins de soignants qui ont envie de passer les concours et qui ont envie de se dévouer aux soins et à l'aide de la personne âgée, il faudrait peut-être se poser les bonnes questions. Les soignants ne sont pas reconnus et on leur oblige une forme d'usinage. J'ai des collègues qui préfèrent aller travailler à l'usine que de continuer à faire du soin. Mais vous vous rendez compte? Bon, moi... Elles auront peut-être les consciences un peu moins abîmées. Parce que quand on fait du soin, c'est parce qu'on aime l'autre.
Quand vous avez parlé de frapper, justement, vous avez un amour. Pourquoi vous avez parlé de...
Maltraitance. La maltraitance.
Mais j'avais atteint le numéro 6.
Excusez-moi, j'ai pas entendu.
Numéro, parce que le code machin n'est pas très fort, il y a un numéro.
Je vais vous raconter, alors. La maltraitance. La maltraitance, normalement, c'est l'agence régionale de santé qui contrôle tout ça. Comme les accueils de jour, comme tout ça. Ben, on dépend de l'agence régionale Bourgogne-Franche-Comté, ici, je crois, hein, c'est ça. On a la même.
Oui, mais non, la Bourgogne-Franche-Comté, maintenant, oui.
Voilà. Quand nous sommes allés dénoncer la prise en charge des anciens, on est allés trois fois. Trois fois. Il y avait François qui était là. La troisième fois. Claire était là la troisième fois. Jacques, je ne sais plus. Trois fois. On nous a dit, il nous faudrait des écrits des familles. D'accord. Mais les familles étaient prêtes à venir témoigner à l'ARS. On leur a dit, les familles veulent venir vous voir. Non. Oui, mais non. Non, qu'elles nous fassent des écrits.
Pourquoi? Pourquoi qu'ils voulaient, les familles ne voulaient pas vous voir?
Ah, les familles voulaient aller voir l'ARS.
Oui, mais pourquoi qu'ils ne veulent pas aller...
Ils ne veulent pas les recevoir.
Comment ça se fait?
Ah...
Ça, c'est un tort, parce que c'est des trucs de maltraitants, donc c'est une personne... C'est normal que les familles qui voient l'ARS.
Je suis d'accord avec vous, donnez-leur.
C'est ça le problème. Ben, oui. C'est un problème à résoudre là-dessus.
Ça s'appelle un scandale, mais c'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Moi, je voulais reprendre un petit peu sur le côté des familles qui ne peuvent pas forcément les prendre en charge et tout, et les solutions intergénérationnelles. Oui, ça serait bien. Et quand c'est possible, c'est bien. Après, les familles... Franchement, les gens, ils n'ont pas le choix. Et en plus, une fois que les personnes âgées, elles sont dans ces structures-là, elles sont culpabilisées. D'avoir été obligés de les faire prendre en charge parce qu'eux n'y arrivaient plus et ils n'osent même pas dénoncer les traitements qui leur sont faits, parce qu'ils ont peur que ce soit leur père, leur mère, leur grand-mère qui subissent en plus des représailles s'ils dénoncent ce qui ne va pas. Quoi. Enfin, j'imagine que n'importe quelle famille souhaiterait pour ses anciens une autre prise en charge que celle-là. Et moi, je voulais revenir sur une chose, c'est sur le fait que c'est un manque de moyens et une façon de traiter les choses à l'économie. Il faut que ça rapporte, etc. On met peu de matériel, peu de soignants, enfin... Mais c'est au-delà de ça. Je sais pas comment vous dire, aux Opalines, elles ont gagné 2 embauches. C'était extraordinaire de l'obtenir. Et pourtant, Anne-Sophie disait, ça résout pas exactement nos problèmes. Et c'est réel. C'est réel parce que le problème, c'est ces structures, elles sont gérées par des financiers qui n'en ont que faire. Qui n'en ont que faire des personnes âgées, du soin, de l'humain, qui devrait être au cœur de ces structures-là. Et ils mettent plus ou moins de personnel, etc., etc. Mais il n'y a pas d'encadrement médical, alors que ce que disait Anne-Sophie, c'est des personnes âgées de plus en plus dépendantes, polypathologiques, qui ont des besoins de soins, qui sont à la limite de structures hospitalières, effectivement, avec des personnels qui ne sont pas formés, avec un turnover insensé, c'est-à-dire que les gens, ils restent 2 jours. Moi, j'ai été discuter de ce débat dans l'hôpital et je suis tombée sur une de mes anciennes étudiantes infirmières qui, depuis, est infirmière et qui me disait « Oh là 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 là, avant d'être à l'hôpital, j'ai fait 2 jours dans une structure comme ça. J'ai pleuré pendant les 2 jours et j'ai pleuré 2 semaines après avoir quitté les 2 jours que j'ai fait. » Voilà. Et pourtant, j'ai croisé aussi d'autres aides-soignantes qui me disaient « Moi, j'ai fait du travail dans une maison de retraite avant d'être à l'hôpital. On n'était pas moins nombreuses qu'ici. Mais il n'y avait pas de médecin. L'infirmière, il y en avait une pour 3 étages. Et on faisait tout. On faisait les soins infirmiers, on gérait quand il y avait une urgence. Et on n'est pas formé pour, on ne sait pas faire. On tombait malade. Les collègues, elles sont remplacées par des gens qui n'ont aucune formation, aucun diplôme, qu'on prend au coin de la rue en leur disant « Tiens, on te prend pour une semaine. » Enfin, c'est une horreur, c'est un cauchemar, ces structures-là. Et c'est un cauchemar pas parce que c'est des personnes âgées, parce que ça pourrait être riche et passionnant, pas parce qu'il manque des bras volontaires pour y aller, parce que ça y en aurait, mais parce que c'est confié à des financiers qui n'ont comme seule optique que de rentrer dans leurs 15%, et quoi qu'il en coûte, et il en coûte ça. Voilà. Et ça se fait en plus avec l'argent public, et ça se fait en plus avec une vraie politique. Je reviens sur les fermetures de lits publics dont on parlait, mais vendredi, il y a 10 jours, là, il y a l'unité de soins longue durée d'Alice Saint-Rennes qui a appris qu'elles allaient fermer. Voilà. Paf, on ferme. 15 lits d'EHPAD, 15 lits unité de soins longue durée, soins de suite, rééducation pour les personnes âgées. Hop, 30 lits en moins. Dans le Nord-Côte d'Or, il n'y a déjà plus rien. Plus les 30 lits et bientôt 80 à Champmaillot, plus les lits publics, ils sont en train de les fermer pour donner ce marché aux financiers. Et c'est vraiment ça le but. De la même façon qu'ils ont livré les hôpitaux aux banques en les surendettant pour finalement que ces masses d'argent qui circulaient dans les hôpitaux n'échappent pas aux financiers et leur permettent de faire des profits, parce qu'il n'y avait quand même pas de raison que cet argent-là ne soit pas à l'origine de profits financiers. Ça a été une politique d'État de décider de mettre ces hôpitaux dans les mains des financiers, et on le paye, et ça, on fera peut-être un autre débat là-dessus. Mais c'est finalement exactement le même problème, c'est que font les capitalistes quand ils gèrent ces choses-là qui relèvent de l'humain. Voilà. Et ils font de la maltraitance institutionnelle, et les personnels sont en souffrance, et c'est vraiment... Je voudrais redire bravo au personnel qui relève la tête et qui réagissent, et je suis pour que ce débat il continue à être mené, et que ce combat il continue à être mené, parce qu'il n'y a rien qui est résolu, mais au moins leur combat a fait qu'on en parle, qu'on dénonce, et que ça ouvre cette perspective-là, et c'est une chance, je trouve.
rebondir encore une fois sur tes propos, Claire. Quand à Xenophilie, on est tous concernés, oui, on est tous concernés, parce que ce qui existe pour la gériatrie, pour la vieillesse, pour les personnes âgées, ça existe maintenant pour toutes les spécialités. Hein, vous avez tous entendu parler de l'ouverture du bel hôpital privé Dijon-Bourgogne de Valmy. Moi, ça m'arrache un petit peu la bouche, pour parler poliment, de dire que c'est un hôpital. Parce qu'un hôpital, le CHU, oui, c'est un hôpital. Parce que le CHU, on accueille tout le monde. Parce que le CHU, on ne choisit pas ses pathologies. Là, vous avez peut-être lu dans le journal de l'agglomération l'article où la directrice générale du CHU se félicite du bel accueil qu'on a maintenant à la maternité, qui nous a permis de multiplier le nombre de naissances cet été. Rien à voir avec l'accueil. Hein, cet été, Valmy a ouvert, et en se déplaçant de Sainte-Marthe à Valmy, ils ont fermé tous les lits de... Oui, mais la maternité de Sainte-Marthe a fermé tous les lits de néonates, parce que ça ne rapporte rien, parce que ça coûte trop cher. Et ça, c'est juste bon pour l'hôpital. Et effectivement, c'est l'hôpital qui a récupéré cet été. Et on a fait, sans moyens, parce qu'on n'a pas préparé. Et comme tu le dis, eux... ils prennent plus, mais les finances, elles n'arrivent pas chez nous. Cet été, on n'avait pas les sages-femmes. On n'avait pas les auxiliaires PR. On n'avait personne. Il fallait courir après le personnel, et on a fait quand même. Donc oui, on est tous concernés à certains moments. Et on sera tous concernés. La gériatrie, on sera tous concernés. Quand tu dis qu'on ferme à Alice-Sainte-Reine, oui, on ferme à Alice-Sainte-Reine. On va fermer dans tout le département. Et après, les personnes âgées, elles sont là, dans un établissement, elles sont isolées parce qu'elles sont à 80 km de chez elles, parce que le conjoint ne peut pas venir, parce que le conjoint ne peut plus conduire, parce que le taxi, ça coûte très cher pour venir depuis le lieu d'habitation. Pas de conjoint, pas d'amis, peu de famille. Voilà. On meurt gentiment.
Mais je voulais juste rajouter un petit élément, c'est que, étant aussi au conseil administratif d'un EHPAD à Malange, d'ailleurs je regrette qu'il n'y ait pas de dame de Malange une fois là, on voit bien aussi que les investissements se font, au lieu de se faire dans l'humain, elles se font dans le bâtiment, par exemple. Tout ce que je voulais rajouter. Les choix. Et le problème, c'est une vraie politique de santé qui nous manque en France.
C'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une dernière petite intervention, sinon je conclue mais voilà, s'il y en a d'autres qui veulent raconter des choses. Hein, ben voilà.
Oui, j'avais une question. Actuellement, on utilise de plus en plus les nouvelles technologies pour financiariser différents projets, pour réduire les coûts. Comment ça se traduit dans les maisons pour la vieillesse? Est-ce qu'ils ont déjà prévu de transformer des choses, de robotiser des choses pour réduire les coûts pour,
voilà. Je vais répondre tout de suite, en fait. Il y a des progrès médicaux, il y a des progrès techniques, etc. Il y a même des robots occupationnels qui s'adressent aux personnes âgées, etc. Enfin, qui vous font la conversation, tout ce que vous voulez. Mais dans ta question, en fait, c'est comme si tu sous-entendais qu'il n'y a pas d'argent, tu vois, et que c'est un problème de moyens. Et en fait, c'est pas un problème de moyens. De l'argent, il y en a, mais au contraire, ils sont prêts à investir dans n'importe quel gadget, ils sont prêts à payer des appareils monstrueux, ils sont prêts à... Enfin, bon, je parle au niveau du CHU, là, tu vois, où pourtant on nous dit qu'on est surendetté au-delà des oreilles sur 280 millions d'euros et les 80 prochaines années, et qu'il faut qu'on économise sur les savonnettes, le pain, tout, etc. Mais ils achètent des scanners, ils achètent des robots pour opérer à distance, ils achètent des... Enfin, et c'est des merveilles, hein, j'ai rien contre. Hein. Franchement, c'est superbe, c'est utile, c'est extra, ça économise des vies, du temps, tout ce que tu veux. Mais c'est un pont d'or pour... Enfin, c'est comme le bâtiment que disait Nathalie. C'est un pont d'or. C'est Philips, c'est General Electric. Enfin, voilà, moi, j'ai les noms, hein, les appareils, je m'en sers. Hein, donc, voilà,
tous les jours. Moi, je vois passer ces noms-là et tout, et je sais que les gens qui vendent ces trucs-là, en plus, parce que c'est l'hôpital et parce que c'est de l'argent public et parce que, ben, finalement, ça fera pas faillite, quoi. Il y a l'État derrière. Eh ben, ils facturent ça, mais ça, c'est faut vendre un rein pour acheter un scanner. Enfin, voilà, c'est de ce niveau-là. C'est cher, hein. Et on sait que parce que c'est l'hôpital, ils vont même le facturer 10 fois plus cher. La moindre pièce à remplacer, c'est des milliers d'euros, alors qu'il y a la même dans ta machine à laver. Mais parce que c'est un scanner, ils vont la facturer 10 fois le prix. Voilà, et tout est comme ça, en fait. Et de la robotique, ils en mettront, hein. Ce qu'ils veulent pas mettre, c'est des gens, parce que ça rapporte à personne de mettre des gens. Ça rapporte qu'aux petits vieux. Ça rapporte que à la relation de soins, ça rapporte que au fait de prendre en charge humainement ces personnes-là. Et ça, ça se chiffre pas et ça rapporte pas à des capitalistes, donc ça vaut rien pour eux. Et finalement, moi, tout ça, c'est peut-être tout ça que je voulais dire dans ce débat-là, tu vois, c'est que c'est même pas un problème de moyens. Ils ont du fric, mais ils savent même pas quoi en faire. Ils se demandent où le placer. Ils font dans les maisons de retraite parce qu'ils en ont déjà trop dans les supermarchés, ils en ont déjà trop dans le pétrole, ils en ont déjà trop dans tout. Il y a trop d'argent dans ce monde. Et ben du coup, oh, ben tiens, un nouveau créneau. Mais ça, c'est bien, ça va rapporter. Et il faut que ça rapporte maintenant. Et hop, à la schlag, il faut que ça rapporte. Et alors, dans les trucs que c'est eux qui dirigent directement, eh ben, ils les font marcher directement avec des normes d'entreprises capitalistes, etc. Et c'est une horreur. Et dans les institutions publiques qui sont en train de s'approprier et de démolir au passage, eh ben, ils veulent qu'on se transforme en ça. Ah, ça se fait pas sans souffrance et ça se fait pas sans résistance, mais c'est quand même la politique qui mène, quoi. Et voilà, moi, je pense que le vrai scandale, il est là. Le vrai scandale, c'est la politique qui est menée de confier les maisons de retraite et de confier, y compris la santé à l'heure actuelle, aux capitalistes et à la finance. Et c'est une catastrophe et il faudra la combattre. Et tous ceux qui relèvent la tête pour la combattre, eh ben, je les félicite parce que ils ont raison et c'est ce qu'il faudra faire. Je dis juste un petit dernier mot. Il y aura une émission sur les opalines bientôt, parce qu'elles ont été l'objet d'un reportage. Et donc, il y aura une pièce à conviction le 19 octobre qui retrace un peu l'histoire de leur grève. Je ne sais pas du tout quel angle ils vont prendre pour le raconter, mais en tout cas, voilà, ils auront des images de cette grève-là. Et bah voilà, si vous voulez revoir un petit peu cette histoire-là, ça peut être intéressant à regarder. Voilà. Voilà, mais je conclurai là-dessus. Vraiment, voilà, le scandale, c'est celui-là. Le scandale des maisons de retraite, qui était l'objet de notre débat, c'est celui de la maltraitance, mais c'est celui d'une maltraitance institutionnelle qui est décidée par l'État de confier ça à des financiers et de leur donner ça et d'en faire finalement un truc... de marchandisation comme un autre et un nid à profit comme un autre, alors que je suis désolée, mais c'est pas ça. Voilà.